Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 1er. Fabrice mène et fait recevoir Gil Blas chez le licencié Cédillo. Dans quel état était ce chanoine? Portrait de sa gouvernante. Nous avions si grand peur d'arriver trop tard chez le vieux licencié que nous ne fîmes qu'un saut du cul-de-sac à sa maison. Nous en trouvâmes la porte fermée, nous frappâmes. Une fille de 10 ans, que la gouvernante faisait passer pour sa nièce, en dépit de la médisance, vint ouvrir, et comme nous lui demandions si l'on pouvait parler au chanoine, la dame Jacinthe parut. C'était une personne déjà parvenue à l'âge de discrétion, mais belle encore, et j'admirais particulièrement la fraîcheur de son teint. Elle portait une longue robe d'une étoffe de laine la plus commune, avec une large ceinture de cuir, d'où pendait d'un côté un trousseau de clefs, et de l'autre un chapelet à gros grains. D'abord que nous l'aperçûmes, nous la saluâmes avec beaucoup de respect. Elle nous rendit le salut fort civilement, mais d'un air modeste et les yeux baissés. « J'ai appris, lui dit mon camarade, qu'il faut un honnête garçon au seigneur licencié Cédillo, et je viens lui en présenter un, dont j'espère qu'il sera content. » La gouvernante leva les yeux à ces paroles, me regarda fixement. Et ne pouvant accorder ma broderie avec le discours de Fabrice, elle demanda si c'était moi qui recherchais la place vacante. « Oui, lui dit le fils de Nunez, c'est ce jeune homme. Tel que vous le voyez, il lui est arrivé des disgrâces qui l'obligent à se mettre en condition. « Il se consolera de ses malheurs, » ajouta-t-il d'un ton doucereux. « S'il a le bonheur d'entrer dans cette maison et de vivre avec la vertueuse Jacinthe, qui mériterait d'être la gouvernante du patriarche des Indes. » À ces mots, la vieille béate cessa de me regarder pour considérer le gracieux personnage qui lui parlait. Et frappée de ses traits, qu'elle crut ne lui être pas inconnue, « J'ai une idée confuse de vous avoir vue, » lui dit-elle. « Aidez-moi à la débrouiller. » « Chaste Jacinthe, lui répondit Fabrice, il m'est bien glorieux de m'être attiré vos regards. Je suis venu 2 fois dans cette maison, avec mon maître, le seigneur Manuel Ordonez, administrateur de l'hôpital. « Et justement, répliqua la gouvernante, je m'en souviens et je vous remets. Ah, puisque vous appartenez au seigneur Ordonez, il faut que vous soyez un garçon de bien et d'honneur. Votre condition fait votre éloge, et ce jeune homme ne saurait avoir un meilleur répondant que vous. « Venez, poursuivit-elle, je vais vous faire parler au seigneur Cédillo. Je crois qu'il sera bien aise d'avoir un garçon de votre main. » Nous suivîmes la dame Jacinthe. Le chanoine était logé par bas, et son appartement consistait en 4 pièces de plein pied, bien boisées. Elle nous pria d'attendre un moment dans la première et nous y laissa pour passer dans la seconde, où était le licencié. Après y avoir demeuré quelque temps, en particulier avec lui, pour le mettre au fait, elle vint nous dire que nous pouvions entrer. Nous aperçûmes le vieux podagre, enfoncé dans un fauteuil, un oreiller sous la tête, des coussins sous les bras et les jambes appuyées sur un gros carreau plein de duvet. Nous nous approchâmes de lui sans ménager les révérences. Et Fabrice, portant encore la parole, ne se contenta pas de redire ce qu'il avait dit à la gouvernante. Il se mit à vanter mon mérite et s'étendit principalement sur l'honneur que je m'étais acquis chez le docteur Godinez dans les disputes de philosophie. Comme s'il eût fallu que je fusse un grand philosophe pour devenir valet d'un chanoine. Cependant, par le bel éloge qu'il fit de moi, il ne laissa pas de jeter de la poudre aux yeux du licencié, qui, remarquant d'ailleurs que je ne déplaisais pas à la dame Jacinthe, dit à mon répondant « L'ami, je reçois à mon service le garçon que tu m'amènes. Il me revient assez, et je juge favorablement de ses mœurs, puisqu'il m'est présenté par un domestique du seigneur Ordonez. » D'abord que Fabrice vit que j'étais arrêté, il fit une grande révérence au chanoine, une autre encore plus profonde à la gouvernante, et se retira fort satisfait après m'avoir dit tout bas que nous nous reverrions et que je n'avais qu'à rester là. Dès qu'il fut sorti, le licencié me demanda comment je m'appelais, pourquoi j'avais quitté ma patrie. Et par ces questions, il m'engagea, devant la dame Jacinthe, à raconter mon histoire. Je les divertis tous deux, surtout par le récit de ma dernière aventure. Camille et Don Raphaël leur donnèrent une si forte envie de rire qu'il en pensa coûter la vie au vieux goutteux. Car, comme il riait de toute sa force, il lui prit une toux si violente que je crus qu'il allait passer. Il n'avait pas encore fait son testament. Jugez si la gouvernante fut alarmée. Je la vis tremblante, éperdue, courir au secours du bonhomme, et faisant tout ce qu'on fait pour soulager les enfants qui toussent, lui frotter le front et lui taper le dos. Ce ne fut pourtant qu'une fausse alarme. Le vieillard cessa de tousser et sa gouvernante de le tourmenter. Alors je voulus achever mon récit. Mais la dame Jacinthe, craignant une seconde toux, s'y opposa. Elle m'emmena même de la chambre du chanoine dans une garde-robe, où, parmi plusieurs habits, était celui de mon prédécesseur. Elle me le fit prendre et mit à sa place le mien, que je n'étais pas fâché de conserver, dans l'espérance qu'il me servirait encore. Nous allâmes ensuite tous deux préparer le dîner. Je ne parus pas neuf dans l'art de faire la cuisine. Il est vrai que j'en avais fait l'heureux apprentissage sous la dame Léonarde, qui pouvait passer pour une bonne cuisinière. Elle n'était pas toutefois comparable à la dame Jacinthe. Celle-ci l'emportait peut-être sur le cuisinier même de l'archevêché de Tolède. Elle excellait en tout. On trouvait ses bisques exquises, tant elle savait bien choisir et mêler les sucs des viandes qu'elle y faisait entrer. Et ses hachis étaient assaisonnés d'une manière qui les rendait très agréables au goût. Quand le dîner fut prêt, nous retournâmes à la chambre du chanoine, où, pendant que je dressais une table auprès de son fauteuil, la gouvernante passa sous le menton du vieillard une serviette et la lui attacha aux épaules. Un moment après, je servis un potage qu'on aurait pu présenter au plus fameux directeur de Madrid, et deux entrées qui auraient eu de quoi piquer la sensualité d'un vice-roi. Si la dame Jacinthe n'y eut pas épargné les épices, de peur d'irriter la goutte du licencié. À la vue de ces bons plats, mon vieux maître, que je croyais perclus de tous ses membres, me montra qu'il n'avait pas encore entièrement perdu l'usage de ses bras. Il s'en aida pour se débarrasser de son oreiller et de ses coussins et se disposa gaiement à manger. Quoique la main lui tremblât, elle ne refusa pas le service. Il la faisait aller et venir assez librement, de façon pourtant qu'il répondait sur la nappe et sur sa serviette la moitié de ce qu'il portait à sa bouche. J'ôtai la bisque, lorsqu'il n'en voulut plus, et j'apportai une perdrix flanquée de deux cailles rôties que la dame Jacinthe lui dépeça. Elle avait aussi soin de lui faire boire de temps en temps de grands coups de vin un peu trempés, dans une coupe d'argent large et profonde qu'elle lui tenait comme à un enfant de 15 mois. Il s'acharna sur les entrées et ne fit pas moins d'honneur aux petits pieds. Quand il se fut bien empiffré, la béate lui détacha sa serviette, lui remit son oreiller et ses coussins. Puis, le laissant dans son fauteuil goûter tranquillement le repos qu'on prend d'ordinaire après le dîner, nous desservîmes et nous allâmes manger à notre tour. Voilà de quelle manière dînait tous les jours notre chanoine, qui était peut-être le plus grand mangeur du chapitre. Mais il soupait plus légèrement. Il se contentait d'un poulet ou d'un lapin avec quelques compotes de fruits. Je faisais bonne chère dans cette maison. J'y menais une vie très douce. Je n'y avais qu'un désagrément. C'est qu'il me fallait veiller mon maître et passer la nuit comme une garde malade. Outre une rétention d'urine qui l'obligeait à demander 10 fois par heure son pot de chambre, il était sujet à suer, et quand cela arrivait, il fallait lui changer de chemise. « Gil Blas, me dit-il dès la seconde nuit, tu as de l'adresse et de l'activité. Je prévois que je m'accommoderai bien de ton service. Je te recommande seulement d'avoir de la complaisance pour la dame Jacinthe, et de faire docilement tout ce qu'elle te dira, comme si je te l'ordonnais moi-même. C'est une fille qui me sert depuis 15 années, avec un zèle tout particulier. Elle a un soin de ma personne que je ne puis assez reconnaître. Aussi, je te l'avoue, elle m'est plus chère que toute ma famille. J'ai chassé de chez moi, pour l'amour d'elle, mon neveu, le fils de ma propre sœur. Et j'ai bien fait. Il n'avait aucune considération pour cette pauvre fille. Eh bien, loin de rendre justice à l'attachement sincère qu'elle a pour moi, l'insolent la traitait de fausse dévote. Car aujourd'hui, la vertu ne paraît qu'hypocrisie aux jeunes gens. Grâce au ciel, je me suis défait de ce maraud-là. Je préfère au droit du sang l'affection qu'on me témoigne, et je ne me laisse prendre seulement que par le bien qu'on me fait. « Vous avez raison, monsieur, » dis-je alors au licencié. « La reconnaissance doit avoir plus de force sur nous que les lois de la nature. »«
Sans doute, » reprit-il, « et mon testament fera bien voir que je ne me soucie guère de mes parents. Ma gouvernante y aura bonne part, et tu n'y seras point oublié, si tu continues comme tu commences à me servir. » Le valet que j'ai mis dehors hier a perdu par sa faute un bon legs. Si ce misérable ne m'eût pas obligé par ses manières à lui donner son congé, je l'aurais enrichi. Mais c'était un orgueilleux qui manquait de respect à la dame Jacinthe, un paresseux qui craignait la peine. Il n'aimait point à me veiller, et c'était pour lui une chose bien fatigante que de passer les nuits à me soulager.
Ah, le malheureux ! M'écriai-je, comme si le génie de Fabrice m'eût inspiré. Il ne méritait pas d'être auprès d'un si honnête homme que vous. Un garçon qui a le bonheur de vous appartenir doit avoir un zèle infatigable. Il doit se faire un plaisir de son devoir, et ne se pas croire occupé lors même qu'il sue sang et eau pour vous. Je m'aperçus que ces paroles plurent fort au licencié. Il ne fut pas moins content de l'assurance que je lui donnais d'être toujours parfaitement soumis aux volontés de la dame Jacinthe. Voulant donc passer pour un valet que la fatigue ne pouvait rebuter, je faisais mon service de la meilleure grâce qu'il m'était possible. Je ne me plaignais point d'être toutes les nuits sur pied. Je ne laissais pas pourtant de trouver cela très désagréable, et sans le legs dont je repaissais mon espérance, je me serais bientôt dégoûté de ma condition. Je n'y aurais pu résister. Il est vrai que je me reposais quelques heures pendant le jour. La gouvernante, je lui dois cette justice, avait beaucoup d'égards pour moi. Ce qu'il fallait attribuer aux soins que je prenais de gagner ses bonnes grâces par des manières complaisantes et respectueuses. Étais-je à table avec elle et sa nièce, qu'on appelait Inésille, je leur changeais d'assiette, je leur versais à boire. J'avais une attention toute particulière à les servir. Je m'insinuais par là dans leur amitié. Un jour que la dame Jacinthe était sortie pour aller à la provision, me voyant seule avec Inésille, je commençai à l'entretenir. Je lui demandais si son père et sa mère vivaient encore. « Oh, que non !» me répondit-elle. « Il y a bien longtemps qu'ils sont morts. » Car ma bonne tante me l'a dit et je ne les ai jamais vus. » Je crus pieusement la petite fille, quoique sa réponse ne fût pas catégorique, et je la mis si bien en train de parler qu'elle m'en dit plus que je n'en voulais savoir. Elle m'apprit, ou plutôt je compris par les naïvetés qui lui échappèrent, que sa bonne tante avait un bon ami qui demeurait aussi auprès d'un vieux chanoine, dont il administrait le temporel, et que ces heureux domestiques comptaient d'assembler les dépouilles de leur maître par un hyménée dont ils goûtaient les douceurs par avance. J'ai déjà bien dit que la dame Jacinthe, bien qu'un peu surannée, avait encore de la fraîcheur. Il est vrai qu'elle n'épargnait rien pour se conserver. Outre qu'elle prenait tous les matins un clistère, elle avalait pendant le jour et en se couchant d'excellents coulis. De plus, elle dormait tranquillement la nuit tandis que je veillais mon maître. Mais ce qui peut-être contribuait encore plus que toutes ces choses à lui rendre le teint frais, c'était, à ce que me dit Inésille,
une fontaine qu'elle avait à chaque jambe.
Chapitre 2. De quelle manière le chanoine, étant tombé malade, fut traité, ce qu'il en arriva, et ce qu'il laissa par testament à Gil Blas.
Je servis pendant 3 mois le licencié Cédillo, sans me plaindre des mauvaises nuits qu'il me faisait passer. Au bout de ce temps-là, il tomba malade. La fièvre le prit, et avec le mal qu'elle lui causait, il sentit irriter sa goutte. Pour la première fois de sa vie, qui avait été longue, il eut recours au médecin. Il demanda le docteur Sangrado, que tout Valladolid regardait comme un Hippocrate. La dame Jacinthe aurait mieux aimé que le chanoine eût commencé par faire son testament. Elle lui en toucha même quelques mots. Mais, outre qu'il ne se croyait pas encore proche de sa fin, il avait de l'opiniâtreté dans certaines choses. J'allai donc chercher le docteur Sangrado. Je l'amenai au logis. C'était un grand homme, sec et pâle, et qui, depuis 40 ans pour le moins, occupait le ciseau des parcs. Ce savant médecin avait l'extérieur grave. Il pesait ses discours et donnait de la noblesse à ses expressions. Ses raisonnements paraissaient géométriques et ses opinions fort singulières. Après avoir observé mon maître, il lui dit d'un air doctoral « Il s'agit ici de suppléer au défaut de la transpiration arrêtée. D'autres à ma place ordonneraient sans doute des remèdes salins, urineux, volatiles, et qui pour la plupart participent du soufre et du mercure. Mais les purgatifs et les sudorifiques sont des drogues pernicieuses et inventées par des charlatans. Toutes les préparations chimiques ne semblent faites que pour nuire. J'emploie des moyens plus simples et plus sûrs. À quelle nourriture, continua-t-il, êtes-vous accoutumé ?
Je mange ordinairement, répondit le chanoine, des bisques et des viandes succulentes.
Des bisques et des viandes succulentes ? S'écria le docteur avec surprise.
Ah, vraiment, je ne m'étonne plus si vous êtes malade. Les mets délicieux sont des plaisirs empoisonnés. Ce sont des pièges que la volupté tend aux hommes pour les faire périr plus sûrement. Il faut que vous renonciez aux aliments de bon goût. Les plus fades sont les meilleurs pour la santé. Comme le sang est insipide, il veut des mets qui tiennent de sa nature.
Et buvez-vous du vin ? Ajouta-t-il.
Oui, dit le licencié, du vin trempé.
Oh, trempez tant qu'il vous plaira, reprit le médecin. Quel dérèglement ! Voilà un régime épouvantable. Il y a longtemps que vous devriez être mort. Quel âge avez-vous ?
J'entre dans ma 69e année, répondit le chanoine.
Justement, répliqua le médecin. Une vieillesse anticipée est toujours le fruit de l'intempérance. Si vous n'eussiez bu que de l'eau claire toute votre vie, et que vous fussiez contenté d'une nourriture simple, de pommes cuites par exemple, de pois ou de fèves, vous ne seriez pas présentement tourmenté de la goutte, et tous vos membres feraient encore facilement leur fonction.
Je ne désespère pas toutefois de vous remettre sur pied, pourvu que vous vous abandonniez à mes ordonnances. »
Le licencié, tout friand qu'il était, promit de lui obéir en toute chose. Alors Sangrado m'envoya chercher un chirurgien qu'il me nomma et fit tirer à mon maître 6 bonnes palettes de sang pour commencer à suppléer au défaut de la transpiration. Puis il dit au chirurgien « « Maître Martin Onez, revenez dans 3 heures, en faire autant, et demain vous recommencerez. » C'est une erreur de penser que le sang soit nécessaire à la conservation de la vie. On ne peut trop saigner un malade. Comme il n'est obligé à aucun mouvement ou exercice considérable, et qu'il n'a rien à faire que de ne point mourir, il ne lui faut pas plus de sang pour vivre qu'à un homme endormi. La vie, dans tous les deux, ne consiste que dans le pouls et dans la respiration. » Le bon chanoine, s'imaginant qu'un si grand médecin ne pouvait faire de faux raisonnements, se laissa saigner sans résistance.
Lorsque le docteur eut ordonné de fréquentes et copieuses saignées, il dit qu'il fallait aussi donner au chanoine de l'eau chaude à tout moment, assurant que l'eau bue en abondance pouvait passer pour le véritable spécifique contre toutes sortes de maladies. Il sortit ensuite, en disant d'un air de confiance à la dame Jacinthe et à moi qu'il répondait de la vie du malade, si on le traitait de la manière qu'il venait de prescrire. La gouvernante, qui jugeait peut-être autrement que lui de sa méthode, protesta qu'on la suivrait avec exactitude. En effet, nous mîmes promptement de l'eau chauffée, et comme le médecin nous avait recommandé sur toute chose de ne la point épargner, nous en fîmes d'abord boire à mon maître 2 ou 3 pintes à long trait. Une heure après, nous réitérâmes. Puis, retournant encore de temps en temps à la charge, nous versâmes dans son estomac un déluge d'eau. D'un autre côté, le chirurgien nous secondant par la quantité de sang qu'il tirait, nous réduisîmes en moins de 2 jours le vieux chanoine à l'extrémité. Ce bon ecclésiastique, n'en pouvant plus, comme je voulais lui faire avaler un grand verre du spécifique, me dit d'une voix faible « Arrête, Gil Blas, ne m'en donne pas davantage, mon ami. Je vois bien qu'il faut mourir, malgré la vertu de l'eau. Et quoiqu'il me reste à peine une goutte de sang, je ne m'en porte pas mieux pour cela. Ce qui prouve bien que le plus habile médecin du monde ne saurait prolonger nos jours quand leur terme fatal est arrivé. Il faut donc que je me prépare à partir pour l'autre monde. Va me chercher un notaire, je veux faire mon testament. » À ces derniers mots, que je n'étais pas fâché d'entendre, j'affectai de paraître fort triste, ce que tout héritier ne manque pas de faire en pareil cas. Et cachant l'envie que j'avais de m'acquitter de la commission qu'il me donnait, « Eh, mais monsieur, lui dis-je, vous n'êtes pas si bas. Dieu merci, que vous ne puissiez vous relever. » « Non, non, repartit-il, mon enfant, c'en est fait, je sens que la goutte remonte et que la mort approche. Hâte-toi d'aller où je t'ai dit. » Je m'aperçus effectivement qu'il changeait à vue d'œil, et la chose me parut si pressante que je sortis vite pour faire tout ce qu'il m'ordonnait, laissant auprès de lui la dame Jacinthe, qui craignait encore plus que moi qu'il ne mourût sans tester. J'entrai dans la maison du premier notaire dont on m'enseigna la demeure, et le trouvant chez lui, « Monsieur, lui dis-je, le licencié Cédillot, mon maître, tire à sa fin, il veut faire écrire ses dernières volontés, il n'y a pas un moment à perdre. » Le notaire était un petit vieillard qui se plaisait à railler. Il me demanda quel médecin voyait le chanoine. Je lui répondis que c'était le docteur Sangrado. À ce nom, prenant brusquement son manteau et son chapeau, « Vive Dieu ! » s'écria-t-il, « partons donc en diligence, car ce docteur est si expéditif qu'il ne donne pas le temps à ses malades d'appeler des notaires. Cet homme-là m'a bien soufflé des testaments. » En parlant de cette sorte, il s'empressa de sortir avec moi. Et pendant que nous marchions tous deux à grands pas pour prévenir l'agonie, je lui dis « Monsieur, vous savez qu'un testateur mourant manque souvent de mémoire. Si par hasard mon maître vient à m'oublier, je vous prie de le faire souvenir de mon zèle. » « Je le veux bien, mon enfant, me répondit le notaire. Tu peux compter là-dessus. Il est juste qu'un maître récompense un domestique qui l'a bien servi. Je l'exhorterai même à te donner quelque chose de considérable, pour peu qu'il soit disposé à reconnaître tes services. » Le licencié, quand nous arrivâmes dans sa chambre, avait encore tout son bon sens. La dame Jacinthe, le visage baigné de pleurs de commande, était auprès de lui. Elle venait de jouer son rôle et de préparer le bonhomme à lui faire beaucoup de bien. Nous laissâmes le notaire seul avec mon maître et passâmes, elle et moi, dans l'antichambre où nous rencontrâmes le chirurgien, que le médecin envoyait pour faire une nouvelle et dernière saignée. Nous l'arrêtâmes. « Attendez, maître Martin, lui dit la gouvernante, vous ne sauriez entrer présentement dans la chambre du seigneur Cédillot. Il va dicter ses dernières volontés à un notaire qui est avec lui. vous le saignerez tout à votre aise quand il aura fait son testament. »
Nous avions grand-peur, la Béate et moi, que le licencié ne mourût en testant. Mais par bonheur, l'acte qui causait notre inquiétude se fit. Nous vîmes sortir le notaire, qui, me trouvant sur son passage, me frappa sur l'épaule et me dit en souriant « On n'a point oublié Gil Blas. » À ces mots, je ressentis une joie toute des plus vives, et je sus si bon gré à mon maître de s'être souvenu de moi que je me promis de bien prier Dieu pour lui après sa mort, qui ne manqua pas d'arriver bientôt. Car le chirurgien l'ayant encore saigné, le pauvre vieillard, qui n'était déjà que trop affaibli, expira presque dans le moment. Comme il rendait les derniers soupirs, le médecin parut et demeura un peu sot, malgré l'habitude qu'il avait de dépêcher ses malades. Cependant, loin d'imputer la mort du chanoine à la boisson et aux saignées, il sortit en disant d'un air froid qu'on ne lui avait pas tiré assez de sang, ni fait boire assez d'eau chaude. L'exécuteur de la haute médecine, je veux dire le chirurgien, voyant aussi qu'on n'avait plus besoin de son ministère, suivit le docteur Sangrado, l'un et l'autre disant que, dès le premier jour, ils avaient condamné le licencié. Effectivement, il ne se trompait presque jamais quand il portait un pareil jugement. Sitôt que nous vîmes le patron sans vie, nous fîmes, la dame Jacinthe, Inésille et moi, un concert de cris funèbres qui fut entendu de tout le voisinage. La Béate, surtout, qui avait le plus grand sujet de se réjouir, poussait des accents si plaintifs qu'elle semblait être la personne du monde la plus touchée. La chambre, en un instant, se remplit de gens, moins attirés par la compassion que par la curiosité. Les parents du défunt n'eurent pas plus tôt vent de sa mort qu'ils vinrent fondre au logis et faire mettre le scellé partout. Ils trouvèrent la gouvernante si affligée qu'ils crurent d'abord que le chanoine n'avait point fait de testament. Mais ils apprirent bientôt, à leur grand regret, qu'il y en avait un, revêtu de toutes les formalités nécessaires. Lorsqu'on vint à l'ouvrir, et qu'ils virent que le testateur avait disposé de ses meilleurs effets en faveur de la dame Jacinthe et de la petite fille, ils firent son oraison funèbre dans des termes peu honorables à sa mémoire. Ils apostrophèrent en même temps la Béate et firent aussi quelques mentions de moi. Il faut avouer que je le méritais bien. Le licencié, devant Dieu soit son âme, pour m'engager à me souvenir de lui toute ma vie, s'expliquait ainsi pour mon compte par un article de son testament. Item, puisque Gil Blas est un garçon qui a déjà de la littérature, pour achever de le rendre savant, je lui laisse une bibliothèque, tous mes livres et mes manuscrits, sans aucune exception. J'ignorais où pouvait être cette prétendue bibliothèque. Je ne m'étais point aperçu qu'il y en eût dans la maison. Je savais seulement qu'il y avait quelques papiers, avec 5 ou 6 volumes, sur 2 petits ais de sapin dans le cabinet de mon maître. C'était là mon legs. Encore ces livres ne me pouvaient-ils être d'une grande utilité. L'un avait pour titre « Le cuisinier parfait ». L'autre traitait de l'indigestion et de la manière de la guérir, et les autres étaient les 4 parties du bréviaire que les vers avaient à demi rongées. À l'égard des manuscrits, le plus curieux contenait toutes les pièces d'un procès que le chanoine avait eu autrefois pour sa prébende. Après avoir examiné mon legs avec plus d'attention qu'il n'en méritait, je l'abandonnai aux parents qui me l'avaient tant envié. Je leur remis même l'habit dont j'étais revêtu, et je repris le mien, bornant à mes gages le fruit de mes services. J'allai chercher ensuite une autre maison. Pour la dame Jacinthe, outre les sommes qui lui avaient été léguées, elle eut encore de bonnes nippes qu'à l'aide de son bon ami, elle avait détournées pendant la maladie du licencié. Chapitre 3. Gil Blas s'engage au service du docteur Sangrado et devient un célèbre médecin. Je résolus d'aller trouver le seigneur Arias de Londona et de choisir dans son registre une nouvelle condition.
Mais comme j'étais près d'entrer dans le cul-de-sac où il demeurait, je rencontrai le docteur Sangrado, que je n'avais point vu depuis le jour de la mort de mon maître, et je pris la liberté de le saluer. Il me remit dans le moment, quoique j'eusse changé d'habit, et témoignant quelque joie de me voir, « Eh, te voilà, mon enfant !» me dit-il. « Je pensais à toi tout à l'heure. J'ai besoin d'un bon garçon pour me servir, et je songeais que tu serais bien mon fait si tu savais lire et écrire. »
« Monsieur, lui répondis-je, sur ce pied-là, je suis donc votre affaire. »
« Cela étant, reprit-il, tu es l'homme qu'il me faut. Viens chez moi, tu n'y auras que de l'agrément. Je te traiterai avec distinction. Je ne te donnerai point de gage, mais rien ne te manquera. J'aurai soin de t'entretenir proprement, et je t'enseignerai le grand art de guérir toutes les maladies. En un mot, tu seras plutôt mon élève que mon valet. » J'acceptai donc la proposition du docteur, dans l'espérance que je pourrais, sous un si savant maître, me rendre illustre dans la médecine. Il me mena chez lui sur le champ pour m'installer dans l'emploi qu'il me destinait. Et cet emploi consistait à écrire le nom et la demeure des malades qu'il envoyait chercher pendant qu'il était en ville. Il y avait pour cet effet au logis un registre dans lequel une vieille servante, qu'il avait pour tout domestique, marquait les adresses. Mais, outre qu'elle ne savait point l'orthographe, elle écrivait si mal qu'on ne pouvait le plus souvent déchiffrer son écriture. Il me chargea du soin de tenir ce livre, qu'on pouvait justement appeler un registre mortuaire, puisque les gens dont je prenais les noms mouraient presque tous. J'inscrivis, pour ainsi parler, les personnes qui voulaient partir pour l'autre monde. Comme un commis dans un bureau de voiture publique écrit le nom de ceux qui retiennent des places. J'avais souvent la plume à la main, parce qu'il n'y avait point, en ce temps-là, de médecin à Valladolid plus accrédité que le docteur Sangrado. Il s'était mis en réputation dans le public par un verbiage spécieux, soutenu d'un air imposant, et par quelques cures heureuses qui lui avaient fait plus d'honneur qu'il ne méritait. Il ne manquait pas de pratique, ni par conséquent de bien. Il n'en faisait pas toutefois meilleure chère. On vivait chez lui très frugalement. Nous ne mangeions d'ordinaire que des pois, des fèves, des pommes cuites ou du fromage. Il disait que ces aliments étaient le plus convenable à l'estomac, comme étant les plus propres à la trituration, c'est-à-dire à être broyés plus aisément. Néanmoins, bien qu'il l'ait cru de facile digestion, il ne voulait point qu'on s'en rassasiât. En quoi, certes, il se montrait fort raisonnable. Mais s'il nous défendait, à la servante et à moi, de manger beaucoup, en récompense il nous permettait de boire de l'eau à discrétion. Bien loin de nous prescrire des bornes là-dessus, il nous disait quelquefois « Buvez, mes enfants, la santé consiste dans la souplesse et l'humectation des parties. » Buvez de l'eau abondamment, c'est un dissolvant universel. L'eau fond tous les sels. Le cours du sang est-il ralenti, elle le précipite. Est-il trop rapide, elle en arrête l'impétuosité. Notre docteur était de si bonne foi sur cela qu'il ne buvait jamais lui-même que de l'eau, bien qu'il fût dans un âge avancé. Il définissait la vieillesse une phtisie naturelle qui nous dessèche et nous consume. Et sur cette définition, il déplorait l'ignorance de ceux qui nomment le vin le lait des vieillards. Il soutenait que le vin les use et les détruit, et disait fort éloquemment que cette liqueur funeste est pour eux, comme pour tout le monde, un ami qui trahit et un plaisir qui trompe. Malgré ces doctes raisonnements, après avoir été 8 jours dans cette maison, il me prit un cours de ventre, et je commençais à sentir de grands maux d'estomac, que j'eus la témérité d'attribuer au dissolvant universel et à la mauvaise nourriture que je prenais. Je m'en plaignis à mon maître, dans la pensée qu'il pourrait se relâcher et me donner un peu de vin à mes repas. Mais il était trop ennemi de cette liqueur pour me l'accorder. « Quand tu auras formé l'habitude de boire de l'eau, me dit-il, « tu en connaîtras l'excellence.
Au reste, poursuivit-il, si tu te sens quelque dégoût pour l'eau pure, il y a des secours innocents pour soutenir l'estomac contre la fadeur des boissons aqueuses. La sauge, par exemple, et la véronique leur donnent un goût délectable. Et si tu veux les rendre encore plus délicieuses, tu n'as qu'à y mêler de la fleur d'œillet, du romarin ou du coquelicot.
Il avait beau vanter l'eau et m'enseigner le secret d'en composer des breuvages exquis, j'en buvais avec tant de modération que, s'en étant aperçu, il me dit
« Eh, vraiment, Gil Blas, je ne m'étonne point si tu ne jouis pas d'une parfaite santé. Tu ne bois pas assez, mon ami. L'eau prise en petite quantité ne sert qu'à développer les parties de la bile et qu'à leur donner plus d'activité, au lieu qu'il les faut noyer dans un délayant copieux. Ne crains pas, mon cher enfant, que l'abondance de l'eau affaiblisse ou refroidisse ton estomac. Loin de toi cette terreur panique que tu te fais peut-être de la boisson fréquente. Je te garantis de l'événement. Et si tu ne me trouves pas bon pour t'en répondre, celle-ce même t'en sera garant. »
Cet oracle latin fait un éloge admirable de l'eau. Ensuite, il dit en termes exprès que ceux qui, pour boire du vin, s'excusent sur la faiblesse de leur estomac, font une injustice manifeste à ce viscère et cherchent à couvrir leur sensualité. Comme j'aurais eu mauvaise grâce de me montrer indocile en entrant dans la carrière de la médecine, je fis semblant d'être persuadé qu'il avait raison. J'avouerai même que je le crus effectivement. Je continuai donc à boire de l'eau, sur la garantie de Cels, ou plutôt je commençai à noyer la bile en buvant copieusement de cette liqueur, et quoique de jour en jour je m'en sentisse plus incommodé, le préjugé l'emportait sur l'expérience. J'avais, comme l'on voit, une heureuse disposition à devenir médecin. Je ne pus pourtant résister toujours à la violence de mes maux, qui s'accrurent à un point que je pris enfin la résolution de sortir de chez le docteur Sangrado. Mais il me chargea d'un nouvel emploi qui me fit changer de sentiment. « Écoute, me dit-il un jour, je ne suis point de ces maîtres durs et ingrats qui laissent vieillir leurs domestiques dans la servitude avant que de les récompenser. Je suis content de toi, je t'aime. Et sans attendre que tu m'aies servi plus longtemps, j'ai pris la résolution de faire ta fortune dès aujourd'hui. Je veux tout à l'heure te découvrir le fin de l'art salutaire que je professe depuis tant d'années. Les autres médecins en font consister la connaissance dans 1000 sciences pénibles. Et moi, je prétends t'abréger un chemin si long et t'épargner la peine d'étudier la physique, la pharmacie, la botanique et l'anatomie. Sache, mon ami, qu'il ne faut que saigner et faire boire de l'eau chaude. Voilà le secret de guérir toutes les maladies du monde. Oui, ce simple secret que je te révèle, et que la nature impénétrable à mes confrères n'a pu dérober à mes observations, est renfermé dans ces deux points, dans la saignée et dans la boisson fréquente. Je n'ai plus rien à t'apprendre, tu sais la médecine à fond. Et profitant du fruit de ma longue expérience, tu deviens tout d'un coup aussi habile que moi. « Tu peux, continua-t-il, me soulager présentement. Tu tiendras le matin notre registre, et l'après-midi tu sortiras pour aller voir une partie de mes malades. Tandis que j'aurai soin de la noblesse et du clergé, tu iras pour moi dans les maisons du tiers-état où l'on m'appellera. Et lorsque tu auras travaillé quelque temps, je te ferai agréger à notre corps. Tu es savant, Gil Blas, avant que d'être médecin, au lieu que les autres sont longtemps médecins, et la plupart toute leur vie avant que d'être savants. » Je remerciai le docteur de m'avoir si promptement rendu capable de lui servir de substitut. Et pour reconnaître les bontés qu'il avait pour moi, je l'assurai que je suivrais toute ma vie ses opinions. Quand même, elle serait contraire à celle d'Hippocrate. Cette assurance, pourtant, n'était pas tout à fait sincère. Je désapprouvais son sentiment sur l'eau, et je me proposais de boire du vin tous les jours en allant voir mes malades. je pendis au croc une seconde fois mon habit brodé pour en prendre un de mon maître et me donner l'air d'un médecin. Après quoi, je me disposai à exercer la médecine aux dépens de qui il appartiendrait. Je débutai par un alguazil qui avait une pleurésie. J'ordonnai qu'on le saignât sans miséricorde et qu'on ne lui plaignît point l'eau. J'entrai ensuite chez un pâtissier à qui la goutte faisait pousser de grands cris. Je ne ménageai pas plus son sang que celui de l'alguazil, et j'ordonnai qu'on lui fît boire de l'eau de moment en moment. Je reçus 12 réaux pour mes ordonnances, ce qui me fit prendre tant de goût à la profession que je ne demandai plus que plais et bosse. En sortant de la maison du pâtissier, je rencontrai Fabrice, que je n'avais point vu depuis la mort du licencié Cédillo. Il me regarda longtemps avec surprise, puis il se mit à rire de toute sa force en se tenant les côtés. Ce n'était pas sans raison. J'avais un manteau qui traînait à terre, avec un pourpoint et un haut de chausse 4 fois plus long et plus large qu'il ne fallait. Je pouvais passer pour une figure originale et grotesque. Je le laissai s'épanouir la rate, non sans être tenté de suivre son exemple. Mais je me contraignis, pour garder le décorum dans la rue, et mieux contrefaire le médecin, qui n'est pas un animal risible. Si mon air ridicule avait excité les rires de Fabrice, mon sérieux les redoubla. Et lorsqu'il s'en fut bien donné, « Vive Dieu, Gil Blas !» me dit-il. « Te voilà plaisamment équipé. Qui diable t'a déguisé de la sorte ?»«
Tout beau, mon ami, » lui répondis-je. « Tout beau. Respecte un nouvel Hippocrate. Apprends que je suis le substitut du docteur Sangrado, qui est le plus fameux médecin de Valladolid. Je demeure chez lui depuis 3 semaines. Il m'a montré la médecine à fond, et comme il ne peut fournir à tous les malades qui le demandent, j'envoie une partie pour le soulager. Il va dans les grandes maisons et moi dans les petites. »
« Fort bien, » reprit Fabrice. « C'est-à-dire qu'il t'abandonne le sang du peuple et se réserve celui des personnes de qualité. Je te félicite de ton partage. Il vaut mieux avoir affaire à la populace qu'au grand monde. Vive un médecin de faubourg. Ses fautes sont moins en vue et ses assassinats ne font point de bruit.
Oui, mon enfant, ajouta-t-il, ton sort me paraît digne d'envie. Et pour parler comme Alexandre, si je n'étais pas Fabrice, je voudrais être Gil Blas. »
Pour faire voir au fils du barbier Nunez qu'il n'avait pas tort de vanter le bonheur de ma condition présente, je lui montrai les réaux de l'alguazil et du pâtissier. Puis nous entrâmes dans un cabaret pour en boire une partie. On nous apporta d'assez bons vins, que l'envie d'en goûter me fit trouver encore meilleur qu'il n'était. J'en bus à longs traits. Et n'en déplaise à l'oracle latin, à mesure que j'en versais dans mon estomac, je sentais que ce viscère ne me savait pas mauvais gré des injustices que je lui faisais. Nous demeurâmes longtemps dans ce cabaret, Fabrice et moi. Nous y rîmes bien aux dépens de nos maîtres, comme cela se pratique entre valets. Ensuite, voyant que la nuit approchait, nous nous séparâmes, après nous être mutuellement promis que le jour suivant, l'après-dîner, nous nous retrouverions au même lieu.
Chapitre 4. Gil Blas continue d'exercer la médecine avec autant de succès que de capacité. Aventure de la bague retrouvée. Je ne fus pas sitôt au logis que le docteur Sangrado y arriva. Je lui parlai des malades que j'avais vus et lui remis entre les mains 8 réaux qui me restaient des 12 que j'avais reçus pour mes ordonnances. « 8 réaux ? » me dit-il après les avoir comptés. « C'est peu de choses pour 2 visites, mais il faut tout prendre. » Aussi les prit-il presque tous. Il en garda 6, et me donnant les 2 autres, « Tiens, Gil Blas, » poursuivit-il, « voilà pour commencer à te faire un fond. De plus, je veux faire avec toi une convention qui te sera bien utile. Je t'abandonne le quart de ce que tu m'apporteras. Tu seras bientôt riche, mon ami, car il y aura, s'il plaît à Dieu, bien des maladies cette année. »
j'avais bien lieu d'être content de mon partage, puisque, ayant dessein de retenir toujours le quart de ce que je recevrais en ville, et touchant encore le quart du reste, c'était, si l'arithmétique est une science certaine, près de la moitié du tout qui me revenait. Cela m'inspira une nouvelle ardeur pour la médecine. Le lendemain, dès que j'eus dîné, je repris mon habit de substitut et me remis en campagne. Je visitai plusieurs malades que j'avais inscrits, et je les traitai tous de la même manière, bien qu'ils eussent des mots différents. Jusque-là, les choses s'étaient passées sans bruit, et personne, grâce au ciel, ne s'était encore révolté contre mes ordonnances. Mais, quelque excellente que soit la pratique d'un médecin, elle ne saurait manquer de censeurs ni d'envieux. J'entrai chez un marchand épicier qui avait un fils hydropique. J'y trouvai un petit médecin brun qu'on nommait le docteur Cuchillo, et qu'un parent du maître de la maison venait d'amener pour voir le malade. Je fis de profondes révérences à tout le monde, et particulièrement au personnage que je jugeai qu'on avait appelé pour le consulter sur la maladie dont il s'agissait. Il me salua d'un air grave, puis, m'ayant envisagé quelques moments avec beaucoup d'attention, « Seigneur docteur, me dit-il, je vous prie d'excuser ma curiosité, je croyais connaître tous les médecins de Valladolid, mes confrères, et cependant je vous avoue que vos traits me sont inconnus. Il faut que depuis très peu de temps vous soyez venu vous établir dans cette ville. » Je répondis que j'étais un jeune praticien et que je ne travaillais encore que sous les auspices du docteur Sangrado. « Je vous félicite, reprit-il poliment, d'avoir embrassé la méthode d'un si grand homme. Je ne doute point que vous ne soyez déjà très habile, quoique vous paraissiez bien jeune. » Il dit cela d'un air si naturel que je ne savais s'il avait parlé sérieusement, ou s'il s'était moqué de moi. Et je rêvais à ce que je devais lui répliquer lorsque l'épicier, prenant ce moment pour parler, nous dit « Messieurs, je suis persuadé que vous savez parfaitement l'un et l'autre l'art de la médecine. Examinez, s'il vous plaît, mon fils, et ordonnez ce que vous jugerez à propos qu'on fasse pour le guérir. » Là-dessus, le petit médecin se mit à observer le malade, et après m'avoir fait remarquer tous les symptômes qui découvraient la nature de la maladie, il me demanda de quelle manière je pensais qu'on dût le traiter. « Je suis d'avis, répondis-je, qu'on le saigne tous les jours, et qu'on lui fasse boire de l'eau chaude abondamment. » À ces paroles, le petit médecin me dit en souriant d'un air plein de malice, « Et vous croyez que ces remèdes lui sauveront la vie ?»« N'en doutons pas, m'écriai-je d'un ton ferme, vous verrez le malade guérir à vue d'œil. Ils doivent produire cet effet puisque ce sont des spécifiques contre toutes sortes de maladies. Demandez au seigneur Sangrado. » Sur ce pied-là, reprit-il, Cels a grand tort d'assurer que pour guérir plus facilement un hydropique, il est à propos de lui faire souffrir la soif et la faim. Oh, Cels, lui répartis-je, n'est pas mon oracle. Il se trompait comme un autre, et quelquefois je me sais bon gré d'aller contre ses opinions. Je m'en trouve fort bien. Je reconnais à vos discours, me dit Cuchillo, la pratique sûre et satisfaisante dont le docteur Sangrado veut insinuer la méthode aux jeunes praticiens. La saignée et la boisson font sa médecine universelle. Je ne suis pas surpris si tant d'honnêtes gens périssent entre ses mains. « N'en venons point aux invectives, » interrompis-je assez brusquement. « Un homme de votre profession a bonne grâce, vraiment, de faire de pareils reproches. » « Allez, allez, monsieur le docteur, sans saigner et sans boire de l'eau chaude, on en voit bien des malades dans l'autre monde, et vous en avez peut-être vous-même expédié plus qu'un autre. Si vous en voulez au seigneur Sangrado, écrivez contre lui, il vous répondra, et nous verrons de quel côté seront les rieurs. » « Par Saint-Jacques et par Saint-Denis, » interrompit-il à son tour avec emportement, « vous ne connaissez guère le docteur Cuchillo. Sachez que j'ai bec et ongles et que je ne crains nullement Sangrado, qui, malgré sa présomption et sa vanité, n'est qu'un original. »
La figure du petit médecin me mit en colère. Je lui répliquai avec aigreur. Il me répartit de la même sorte. Et bientôt, nous en vîmes aux gourmades. Nous eûmes le temps de nous donner quelques coups de poing et de nous arracher l'un à l'autre une poignée de cheveux, avant que l'épicier et son parent pussent nous séparer. Lorsqu'ils en furent venus à bout, ils me payèrent ma visite et retinrent mon antagoniste, qui leur parut apparemment plus habile que moi. Après cette aventure, peu s'en fallut qu'il ne m'en arrivât une autre. J'allai voir un gros chantre qui avait la fièvre. Sitôt qu'il m'entendit parler d'eau chaude, il se montra si récalcitrant contre ce spécifique qu'il se mit à jurer. Il me dit 1 000 000 d'injures et me menaça même de me jeter par les fenêtres si je ne me hâtais de sortir de chez lui. Je ne me le fis pas dire 2 fois. Je me retirai promptement et, ne voulant plus voir de malade ce jour-là, je gagnai l'hôtellerie où j'avais donné rendez-vous à Fabrice. Il y était déjà. Comme nous nous trouvâmes en humeur de boire, nous fîmes la débauche et nous en retournâmes chez nos maîtres en bon état, c'est-à-dire entre 2 vins. Le seigneur Sangrado ne s'aperçut point de mon ivresse, parce que je lui racontai avec tant d'action le démêlé que j'avais eu avec le petit docteur, qu'il prit ma vivacité pour un effet de l'émotion qui me restait encore de mon combat. D'ailleurs, il entrait pour son compte dans le rapport que je lui faisais, et se sentant piqué contre Cuchillo, « Tu as bien fait, Gil Blas, me dit-il, de défendre l'honneur de nos remèdes contre ce petit avorton de la faculté. Il prétend donc qu'on ne doit pas permettre les boissons aqueuses aux hydropiques. L'ignorant! Je soutiens, moi, qu'il faut leur en accorder l'usage. Oui, l'eau, poursuivit-il, peut guérir toutes sortes d'hydropisies. Comme elle est bonne pour les pâles couleurs, elle est encore excellente dans ces fièvres où l'on brûle et glace tout à la fois. Et merveilleuse même dans ces maladies qu'on impute à des humeurs froides, séreuses, flegmatiques et pituiteuses. Cette opinion paraît étrange aux jeunes médecins tels que Cuchillo, mais elle est très soutenable en bonne médecine. Et si ces gens-là étaient capables de raisonner en logicien, au lieu de me décrier comme ils font, ils admireraient ma méthode et deviendraient mes plus zélés partisans. Il ne me soupçonna donc point d'avoir bu tant il était en colère, car, pour l'aigrir encore davantage contre le petit docteur, j'avais mis dans mon rapport quelques circonstances de mon cru. Cependant, tout occupé qu'il était de ce que je venais de lui dire, il ne laissa pas de s'apercevoir que je buvais ce soir-là plus d'eau qu'à l'ordinaire. Effectivement, le vin m'avait fort altéré. Tout autre que Sangrado se serait défié de la soif qui me pressait et des grands coups d'eau que j'avalais. Mais lui, s'imaginant de bonne foi que je commençais à prendre goût aux boissons aqueuses, « À ce que je vois, Gil Blas, me dit-il en souriant, tu n'as plus tant d'aversion pour l'eau. Vive Dieu, tu la bois comme du nectar. Cela ne m'étonne point, mon ami. Je savais bien que tu t'accoutumerais à cette liqueur. Monsieur, lui répondis-je, chaque chose a son temps. Je donnerai à l'heure qu'il est 1 muid de vin pour 1 pinte d'eau. Cette réponse charma le docteur, qui ne perdit pas une si belle occasion de relever l'excellence de l'eau. Il entreprit d'en faire un nouvel éloge, non en orateur froid, mais en enthousiaste. « 1000 fois, s'écria-t-il, 1000 et 1000 fois plus estimable et plus innocent que les cabarets de nos jours, ces thermopoles des siècles passés, où l'on n'allait pas honteusement prostituer son bien et sa vie en se gorgeant de vin, mais où l'on s'assemblait pour s'amuser, honnêtement et sans risque, à boire de l'eau chaude. On ne peut trop admirer la sage prévoyance de ces anciens maîtres de la vie civile, qui avaient établi des lieux publics où l'on donnait de l'eau à boire à tout venant, et qui renfermaient le vin dans les boutiques des apothicaires, pour n'en permettre l'usage que par ordonnance des médecins. Quel trait de sagesse ! C'est sans doute, ajouta-t-il, par un heureux reste de cette ancienne frugalité digne du siècle d'or, qu'il se trouve encore aujourd'hui des personnes
qui, comme toi et moi, ne boivent que de l'eau, et qui croient se préserver ou se guérir de tout maux en buvant de l'eau chaude qui n'a pas bouilli. Car j'ai observé que l'eau, quand elle a bouilli, est plus pesante et moins commode à l'estomac. Tandis qu'il tenait ce discours éloquent, je pensais plus d'une fois éclater de rire. Je gardais pourtant mon sérieux. Je fis plus. J'entrais dans les sentiments du docteur. Je blâmais l'usage du vin, et je plaignis les hommes d'avoir malheureusement pris goût à une boisson si pernicieuse. Ensuite, comme je ne me sentais pas encore bien désaltéré, je remplis d'eau un grand gobelet, et après avoir bu à longs traits, « Allons, monsieur, dis-je à mon maître, abreuvons-nous de cette liqueur bienfaisante. Faisons revivre dans votre maison ces anciens thermopoles que vous regrettez si fort. » Il applaudit à ces paroles et m'exhorta pendant une heure entière à ne boire jamais que de l'eau. Pour m'accoutumer à cette boisson, je lui promis d'en boire une grande quantité tous les soirs. Et, pour tenir plus facilement ma promesse, je me couchais dans la résolution d'aller tous les jours au cabaret. Le désagrément que j'avais eu chez l'épicier ne m'empêcha pas de continuer d'exercer ma profession et d'ordonner, dès le lendemain, des saignées et de l'eau chaude. Au sortir d'une maison où je venais de voir un poète qui avait la frénésie, je rencontrai dans la rue une vieille femme qui m'aborda pour me demander si j'étais médecin. Je lui répondis qu'oui. « Cela étant, reprit-elle, seigneur docteur, je vous supplie très humblement de venir avec moi. Ma nièce est malade depuis hier, et j'ignore quelle est sa maladie. » Je suis la vieille qui me conduisit à sa maison et me fit entrer dans une chambre assez propre où je vis une personnalité. Je m'approchai d'elle pour l'observer. D'abord, ses traits me frappèrent. Et après l'avoir envisagée quelques moments, je reconnus, à n'en pouvoir douter, que c'était l'aventurière qui avait si bien fait le rôle de Camille. Pour elle, il ne me parut point qu'elle me remît, soit qu'elle fût accablée de son mal, soit que mon habit de médecin me rendît méconnaissable à ses yeux. Je lui pris le bras pour lui tâter le pouls, et j'aperçus ma bague à son doigt. Je fus terriblement émue à la vue d'un bien dont j'étais en droit de me saisir, et j'eus grande envie de faire un effort pour le reprendre. Mais considérant que ces femmes se mettraient à crier, et que Don Raphaël ou quelque autre défenseur du beau sexe pourrait accourir à leurs cris, je me gardai bien de céder à la tentation. Je fis réflexion qu'il valait mieux dissimuler et consulter là-dessus Fabrice. Je m'arrêtai à ce dernier parti. Cependant, la vieille me pressait de lui apprendre de quel mal sa nièce était atteinte. Je ne fus pas assez sot pour avouer que je n'en savais rien. Au contraire, je fis le capable, et copiant mon maître, je dis gravement que le mal provenait de ce que la malade ne transpirait point, qu'il fallait par conséquent se hâter de la saigner, parce que la saignée était le substitut naturel de la transpiration. Et j'ordonnai aussi de l'eau chaude pour faire les choses suivant nos règles. J'abrégeai ma visite le plus qu'il me fut possible. Et je courus chez le fils de Nunez, que je rencontrai comme il sortait pour aller faire une commission dont son maître venait de le charger. Je lui contai ma nouvelle aventure et lui demandai s'il jugeait à propos que je fisse arrêter Camille par des gens de justice. « Eh non !» me répondit-il. « Vive Dieu, il faut bien t'en donner de garde. Ce ne serait pas le moyen de ravoir ta bague. Ces gens-là n'aiment point à faire des restitutions. » « Souviens-toi de ta prison d'Astorga. Ton cheval, ton argent, jusqu'à ton habit, tout n'est-il pas demeuré entre leurs mains? Il faut plutôt nous servir de notre industrie pour rattraper ton diamant. Je me charge du soin de trouver quelques ruses pour cet effet. Je vais y rêver en allant à l'hôpital, où j'ai deux mots à dire au pourvoyeur de la part de mon maître. Toi, va m'attendre à notre cabaret, et ne t'impatiente point. « Je t'y joindrai dans peu de temps. » Il y avait pourtant déjà plus de 3 heures que j'étais au rendez-vous quand il y arriva. Je ne le reconnus pas d'abord. Outre qu'il avait changé d'habit et natté ses cheveux, une moustache postiche lui couvrait la moitié du visage. Il portait une grande épée dont la garde avait pour le moins 3 pieds de circonférence, et il marchait à la tête de 5 hommes qui avaient, comme lui, l'air déterminé, des moustaches épaisses avec de longues rapières. « Serviteur au seigneur Gil Blas, » dit-il en m'abordant. « Il voit en moi un alguazil de nouvelle fabrique, et dans ces braves gens qui m'accompagnent, des archers de la même trempe. Il n'a qu'à nous mener chez la femme qui lui a volé un diamant, et nous le lui ferons rendre, sur ma parole. » J'embrassai Fabrice à ce discours, qui me faisait connaître le stratagème qu'il prétendait employer pour moi, et je lui témoignai que j'approuvais fort l'expédient qu'il avait imaginé. Je saluai aussi les faux archers. C'étaient 3 domestiques et 2 garçons, barbiers, de ses amis, qu'il avait engagés à faire ce personnage. J'ordonnai qu'on apportât du vin pour abreuver l'escouade, et nous allâmes tous ensemble chez Camille à l'entrée de la nuit. Nous frappâmes à la porte que nous trouvâmes fermée. La vieille vint ouvrir, et prenant les personnes qui étaient avec moi pour des lévriers de justice, qui n'entraient pas dans cette maison sans sujet, elle demeura fort effrayée. « Rassurez-vous, ma bonne mère, » lui dit Fabrice, « nous ne venons ici que pour une petite affaire qui sera bientôt terminée, car nous sommes des gens expéditifs. » À ces mots, nous nous avançâmes et gagnâmes la chambre de la malade, conduite par la vieille qui marchait devant nous, à la faveur d'une bougie qu'elle tenait dans un flambeau d'argent. Je pris ce flambeau, je m'approchai du lit, et faisant remarquer mes traits à Camille, « Perfide, lui dis-je, reconnaissez ce trop crédule Gil Blas que vous avez trompé. Ah, scélérate, je vous rencontre enfin, après vous avoir longtemps cherché. Le corrigidor a reçu ma plainte, et il a chargé cet alguazil de vous arrêter. « Allons, monsieur l'officier, dis-je à Fabrice, faites votre charge. « Il n'est pas besoin, dit-il en grossissant sa voix, de m'exhorter à remplir mon devoir. Je me remets cette bonne vivante-là. Il y a 10 ans qu'elle est marquée en lettres rouges sur mes tablettes. « Levez-vous, ma princesse, ajouta-t-il. « Habillez-vous promptement, je vais vous servir d'écuyer et vous conduire aux prisons de cette ville, si vous l'avez pour agréable. » À ces paroles, Camille, toute malade qu'elle était, s'apercevant que 2 archers à grandes moustaches se préparaient à la tirer de son lit par force, se mit d'elle-même sur son séant, joignit les mains d'une manière suppliante et, me regardant avec des yeux où la frayeur était peinte, « Seigneur Gil Blas, me dit-elle. « Ayez pitié de moi, je vous en conjure par la chaste mère à qui vous devez le jour. Je suis plus malheureuse que coupable. Vous en serez convaincue si vous voulez entendre mon histoire. » « Non, mademoiselle, Camille, m'écriai-je. Non, je ne veux pas vous écouter. Je ne sais que trop bien que vous excellez à faire des romans. » « Eh bien, reprit-elle, puisque vous ne me permettez pas de me justifier, je vais vous rendre votre diamant. « Et ne me perdez point !» En parlant de cette sorte, elle tira de son doigt ma bague et me la donna. Mais je lui répondis que mon diamant ne suffisait point et que je voulais qu'on me restituât encore les 1000 ducats qui m'avaient été volés dans l'hôtel Garni. « Oh, pour vos ducats, seigneur, répliqua-t-elle, ne me les demandez point. Le traître Don Raphaël, que je n'ai pas vu depuis ce temps-là, les emporta dès la nuit même. » Hey, « Hé, petite mignonne, » dit alors Fabrice, « n'y a-t-il qu'à dire, pour vous tirer d'intrigue, que vous n'avez pas eu de part au gâteau? Vous n'en serez pas quitte à si bon marché. C'est assez que vous soyez des complices de Don Raphaël pour mériter qu'on vous demande compte de votre vie passée. Vous devez bien avoir des choses sur la conscience. Vous viendrez, s'il vous plaît, en prison, faire une confession générale. J'y veux mener aussi, » continua-t-il, « cette bonne vieille. Je juge qu'elle sait une infinité d'histoires curieuses que monsieur le corrégidor ne sera pas fâché d'entendre. » Les 2 femmes, à ces mots, mirent tout en usage pour nous attendrir. Elles remplirent la chambre de cris, de plaintes et de lamentations. Tandis que la vieille, à genoux, tantôt devant l'alguazil et tantôt devant les archers, tâchait d'exciter leur compassion. Camille me priait
de la manière du monde la plus touchante de la sauver des mains de la justice. C'était une chose à voir que ce spectacle. Je feignis de me laisser fléchir. « Monsieur l'officier, dis-je au fils de Nunez, puisque j'ai mon diamant, je me console du reste. Je ne souhaite pas qu'on fasse de la peine à cette pauvre femme. Je ne veux point la mort du pécheur. »
« Fi donc, répondit-il, vous avez de l'humanité. Vous ne seriez pas bon à être exempt.
Il faut, poursuivit-il, que je m'acquitte de ma commission. Il m'est expressément ordonné d'arrêter ces infantes. Monsieur le corégidor en veut faire un exemple.
« Et de grâce, repris-je, ayez quelque égard à ma prière, et relâchez-vous un peu de votre devoir en faveur du présent que ces dames vont vous offrir. »«
Oh, c'est une autre affaire, » repartit-il. « Voilà ce qui s'appelle une figure de rhétorique bien placée. Ça, voyons, qu'ont-elles à me donner ?»«
J'ai un collier de perles, » lui dit Camille, et des pendants d'oreilles d'un prix considérable.
« Oui, mais, » interrompit-il brusquement, « si cela vient des îles Philippines, je n'en veux point. »«
Vous pouvez les prendre en assurance, » reprit-elle, « je vous les garantis fin. »
En même temps, elle se fit apporter par la vieille une petite boîte, d'où elle tira le collier et les pendants qu'elle mit entre les mains de monsieur l'alguazil. Bien qu'il ne se connût guère mieux que moi en pierrerie, il ne douta pas que celles qui composaient les pendants ne fussent fines, aussi bien que les perles.
« Ces bijoux, dit-il après les avoir considérés attentivement, me paraissent de bon aloi, et si l'on ajoute à cela le flambeau d'argent que tient le seigneur Gil Blas, je ne réponds plus de ma fidélité.
« Je ne crois pas, dis-je alors à Camille, que vous vouliez, pour une bagatelle, rompre un accommodement si avantageux pour vous. » En prononçant ces dernières paroles, j'ôtai la bougie que je remis à la vieille et livrai le flambeau à Fabrice, qui, s'en tenant là, peut-être parce qu'il n'apercevait plus rien dans la chambre qui se put aisément emporter, dit aux deux femmes « Adieu, mesdames, demeurez tranquilles. « Je vais parler à monsieur le corégidor et vous rendre plus blanche que la neige. Nous savons lui tourner les choses comme il nous plaît, et nous ne lui faisons des rapports fidèles que quand rien ne nous oblige à lui en faire de faux. »